Cédric Villani est mathématicien et, comme vous le savez, il a obtenu la médaille Field en 2010. Médaille Field qui est quand même une récompense prestigieuse, absolument prestigieuse en mathématiques. Et il a été élève, j'ai noté, de Pierre-Louis Lion, qui lui-même avait obtenu la médaille Field en 1994, dont j'en déduis que la médaille Field est une MST, une médaille scientifiquement transmissible. Voilà. Enfin, pour vérifier cette assertion, j'attends quand même le troisième, peut-être, si un des élèves de Cédric Villani l'obtient aussi, mais on pourra dire, vraiment, je crois que ce sera... Peut-être, on l'invitera et on continuera. Voilà. Donc on pourra peut-être vérifier cette conjecture. Voilà. En tout cas, cette médaille Field a été obtenue en 2010 pour ses travaux sur le comportement des gaz et des plasmas avec Niu Bao Chou. Et depuis, nous avons le plaisir de le rencontrer un petit peu à travers certaines chroniques dans les journaux, voire parfois dans les médias. Et ce soir, il va nous parler de l'amortissement Landau, qui, il va l'expliquer lui-même beaucoup mieux que moi, mais une des raisons pour lesquelles ça m'a interpellé, c'est que c'est un phénomène qui régit les inhomogénéités, en général toutes formes d'homogénéité, en particulier lesquelles peuvent s'effacer spontanément, que ce soit dans les galaxies, dans un gaz ou dans l'électricité. Et on se demandait tout à l'heure, en conversation privée, si les humeurs, les inhomogénéités d'humeur dans un électorat peuvent être effacées par amortissement Landau. Enfin, nous aurons peut-être cette confirmation de ce phénomène dans quelques jours. Voilà. Et donc, je ne vais pas en dire davantage. Je vais immédiatement donner la parole à Cédric pour nous parler des particules, des étoiles et des probabilités.
Merci beaucoup pour l'introduction. C'est bon, tout le monde m'entend bien. Merci pour l'introduction. Et c'est un grand plaisir d'être invité ici devant un auditoire où les mathématiciens ne sont pas si fréquents. Mais il fut une époque où mathématiciens, astrophysiciens, tout ça s'était confondu. On en verra certains exemples dans ma conférence. Un autre a été cité, c'est Henri Poincaré. Henri Poincaré, il a fait énormément d'autres choses que simplement des travaux sur le précurseur de la relativité. Et en particulier, c'est l'un de ceux qui ont le plus contribué à l'histoire de notre connaissance du système solaire en tant que système mathématique, un peu général. J'en reparlerai tout à l'heure. Et effectivement, en 2012, c'est peut-être la fin du monde, mais en tout cas, c'est le centenaire de la disparition de Poincaré, et il y aura toute une série de manifestations à son sujet, expositions itinérantes, toutes sortes de choses, et en particulier, pour ceux qui sont intéressés, une journée grand public, 17 novembre, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où on parlera de Poincaré pour tout public, de la vulgarisation et toutes sortes d'autres choses. Voilà, alors après cette page de publicité éhontée, je reviens au sujet de la conférence d'aujourd'hui. Particules, étoiles et probabilités. On va parler de physique, on va parler de mathématiques et on va se mettre en train avec un beau tableau de John Wright of Derby, les années 1760, un tableau qui évoque la compréhension du cosmos, un tableau qui nous montre un savant qui donne une leçon sur une orrery, vous voyez ce dispositif qui reproduit les mouvements des planètes, dans laquelle une lampe est mise à la place du soleil, lampe qui éclaire bien à propos le charmant visage des bambins, émerveillés par la science. Une toile qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'à l'époque, ce n'était pas si courant de représenter des sujets scientifiques, qui plus est, sujets scientifiques au cœur de la famille. Quelque chose qui est toujours plus que jamais d'actualité. Alors, comprendre le cosmos, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Vous remarquerez aussi que cet exposé est adapté d'une conférence précédemment donnée dans le cadre de la série Science à cœur, organisée par l'UPMC, ce qui explique la présence de ce joli cœur. Et puis, continuons. Alors, sans refaire tout l'historique, on va faire partir notre chemin astronomique de Kepler. Johannes Kepler, avec ses fameuses lois, c'est le moment dans notre histoire où la vision qu'on a du système solaire est la plus parfaite. Au moment de Kepler, on a cette vision avec les lois, popularisées en France par Voltaire, les lois qui nous disent par exemple les orbites sont elliptiques, le Soleil est un des foyers, et puis il y a une seconde loi, et puis il y a une troisième loi, il y a la loi des airs, il y a la loi du rapport entre les périodes et les demi-grands axes. Très belle loi, c'est magnifique. Et auparavant, on n'avait pas de schéma général qui expliquait, qui décrivait le cosmos, et puis après, en un certain sens, on l'a perdu aussi. C'est le moment Kepler, c'est le moment où c'est le plus parfait, où on prend conscience que c'est très régulier, mais on n'a pas encore pris conscience de à quel point c'est compliqué. Et plus jamais dans l'histoire, les choses seront aussi simples qu'avec Kepler. Alors, ça n'empêche pas qu'on a des progrès remarquables, et en particulier, un progrès qui est associé à considérer comme un des plus importants de toute l'histoire de notre science, la loi de la gravitation universelle, avec la sévère figure de Newton. Ici, les Principia Mathematica, l'un des ouvrages les plus importants écrits dans l'histoire des sciences, ou de l'humanité, si on est un peu grandiloquent, pourquoi pas. Et ici, la fameuse loi, une seule loi, qui vous dit, entre deux corps, il y a une force qui s'exerce, entre deux corps massifs, et cette force, elle est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est simple, c'est beau. Ça date des années 1660. Il a attendu à peu près 20 ans pour le publier. Et puis, avec sa loi, où il a identifié la force à l'accélération, l'accélération à la somme des forces qui s'exercent sur un corps à un facteur masse près, il obtient les équations du mouvement des planètes. Équations qu'on utilise toujours de nos jours. Ça, c'est remarquable. Avec cette famille d'équations différentielles, alors je dis famille parce qu'il y a autant d'équations qu'il y a de corps qu'on utilise. Alors ça dépend si on compte 8 ou 9 ou 10 planètes dans le système solaire ou 10 satellites ou pas. Mais enfin, vous faites la liste des corps que vous voulez modéliser. Vous considérez leur position, vous donnez un numéro à chacun, XI la position du corps numéro I, MI la masse du corps numéro I, et vous avez l'équation MI fois l'accélération du corps I est égale à moins la somme de toutes les forces qui sont exercées par les corps J sur ce corps I. Et Newton est très fier d'avoir établi ces équations. En particulier, il voit bien qu'avec une seule équation, il arrive à retrouver les lois de Kepler. Parce que s'il regarde juste deux corps, par exemple le Soleil et la Terre, hop, il retrouve la loi de Kepler. Il intègre ses équations différentielles, il trouve une ellipse. C'est magnifique. Et il est très fier. En même temps, il comprend qu'il y a quelque chose de terrifiant là derrière. Il y a quelque chose de terrifiant et on le voit à ce problème qu'on appelle la non-intégrabilité. Dès qu'il y a trois corps, pas de solution explicite. Vous êtes incapable de résoudre l'équation. L'équation, vous pouvez l'écrire, mais quand tu as trouvé la solution, il n'y a pas de solution, au sens où il n'y a pas une jolie formule fermée qui vous donnerait la formule, qui vous donnerait la solution d'une façon exploitable. Vous pouvez faire des calculs approchés, mais pas de solution exacte. Et a fortiori, dans le système solaire, vous avez un problème avec 10 corps peut-être, pas autant à l'époque de Newton, je ne sais plus combien il y avait de planètes connues à cette époque-là, mais vous ne savez pas résoudre cette équation. Adieu les belles ellipses de Kepler, c'est même pas clair que le mouvement soit périodique, c'est même pas clair que le mouvement des planètes reboucle sur lui-même. Parce que, eh bien, si la loi de la gravitation est universelle, eh bien, non seulement les planètes subissent l'attraction du système solaire, mais elles s'attirent aussi les unes les autres. Chaque planète subit l'attraction des autres. Et alors, évidemment, dans ce problème, il y a le Soleil qui joue plus que les autres, parce qu'il est plus lourd. Mais les autres, ça joue aussi. On subit l'attraction de Jupiter, on subit l'attraction de Mars. Comment ça influe? Aucune loi, comprend Newton, n'interdit les événements catastrophiques. Il se peut très bien, au vu des équations qu'il a établies, et il ne voit aucune raison pour l'empêcher, qu'il y ait une vraie catastrophe qui se produise et qu'un jour, une planète qui s'échappe du système solaire ou deux planètes qui viennent s'écraser l'une contre l'autre. Et puis, s'ensuit tout un débat. Newton est persuadé quand même que y a quelque chose qui empêche les catastrophes de se produire. Il suggère, dans des textes qui sont assez, dont l'interprétation est assez controversée, qu'il y a une intervention divine qui se superpose aux lois de la physique pour empêcher cette destruction. Et puis, s'ensuit une controverse avec Leibniz. Et puis, qu'il y aura des retentissements bien au-delà du domaine scientifique. Et en tout cas, est posé à partir de ce moment peut-être le plus ancien problème de physique mathématique, le problème de la stabilité du système solaire. qui a une version physique, concrète. Le système solaire qu'on le connaît, tel qu'on le connaît, est-ce qu'il est stable ou pas? Est-ce qu'un jour, Vénus va entrer en collision avec la Terre? Et puis, une version mathématique. Vous vous donnez un système solaire avec une répartition un peu quelconque de soleil et de masse des planètes. Est-ce que ce système, il est stable ou instable? Une version abstraite de ce même problème. Alors, quand on regarde le système solaire, quelque chose d'important, c'est la notion d'échelle, bien sûr. Voici quelques planètes qui nous sont familières. On reconnaît la Terre, sa sœur jumelle, Vénus, Mars, Mercure, Pluton. Et puis, on sait bien que ces planètes, elles se ressemblent un peu, mais si on regarde à l'échelle du système solaire, toutes les planètes, c'est bien peu de choses par rapport au Soleil. Ça, c'est le Soleil. Là, le petit point, là, c'est la Terre. Ici, vous avez Jupiter et Saturne. Même Jupiter, qui est monstrueusement grosse par rapport à la Terre, c'est jamais qu'un millième de la masse du Soleil. Alors, à partir de là, on se dit qu'il y a effectivement une formulation mathématique un peu abstraite du problème. On se donne un Soleil et des planètes, c'est-à-dire un corps très lourd et des corps beaucoup plus légers, mille fois plus légers. Et on se demande, est-ce que le système il va être stable malgré les influences des planètes les unes sur les autres. Alors, si on analyse ce problème de manière naïve, je dis naïf, mais Newton ne pouvait pas faire mieux avec les outils qu'il avait. On va dire, OK, Jupiter, par exemple, c'est un millième de l'influence du Soleil. Si je veux calculer l'influence sur la trajectoire de la Terre de Jupiter, c'est de l'ordre du millième. Si mon compte en banque il baisse de 1 millième chaque année, il faut attendre 1000 ans avant qu'il soit complètement dégarni. Et on pourrait dire pour le système solaire, c'est pareil. Il faut attendre un temps qui est l'inverse du rapport de masse pour que ça joue un rôle. L'inverse de 1 millième, c'est 1000. Mais là, vous êtes embêté, et c'est là que Newton tiquait. Ça voudrait dire que le système solaire, en gros, il est instable sur une durée de l'ordre de 1000 ans. C'est pas beaucoup, 1000 ans. On a des archives, on a des observations qui semblent montrer que, à 1000 ans, le système solaire il était à peu près comme il est maintenant, à peu près. Donc ça ne va pas. Newton a bien conscience qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il pense que le système mathématique est impuissant à rendre compte de cette stabilité. Mais c'était compté sans le fait que ce système solaire, ce n'est pas n'importe quel système. Ce n'est pas comme votre compte en banque qui plonge, c'est un truc plus subtil où il y avait il y a des compensations qui s'effectuent sur le long terme. Et à la fin du XVIIIe siècle, Laplace et Lagrange, en particulier, obtiennent un résultat remarquable. Il ne faut pas attendre un temps 1 sur epsilon, où epsilon est le rapport des masses entre Jupiter et le Soleil, disons, entre les plus grosses planètes et le Soleil. Il ne faut pas attendre un temps 1 sur epsilon, parce qu'il y a un effet de moyenne automatiquement qui se fait. Que sur un intervalle de temps l'ordre 1 sur epsilon, vous perdez presque autant que vous regagnez. Vous vous rapprochez presque autant que vous vous éloignez. Et en moyenne, vous êtes resté à la même position. Et il faut attendre, en gros, un temps 1 sur epsilon carré avant que ces petites perturbations elles aient une influence. 1 sur epsilon carré, 1000 fois 1000, vous avez l'ordre du million d'années. Et là, vous êtes rassuré. Hein, même s'il se passe quelque chose dans un million d'années, ça ne vous inquiète pas tant que ça. Alors, ça, c'était remarquable. Là, pour le coup, on allait subitement bien au-delà des archives historiques, avec le million d'années. On avait même une précision qui était supérieure, très supérieure à ce que donnaient les observations. Par exemple, si on observe la distance entre la Terre et Jupiter, on a l'impression qu'elle, insensiblement, il y a un écart qui s'est toujours dans le même sens. Je ne sais pas si ça a tendance à toujours s'éloigner ou à toujours se rapprocher, mais depuis le temps qu'on a observé, l'écart se modifie toujours dans la même direction. Ce qui semble aller contre ce théorème de Laplace et Lagrange. Et comme on l'a compris après, en fait, il y a la période sur laquelle ça se passe pour Jupiter, dû à un phénomène qu'on appelle quasiment résonance, quasi-résonance entre Jupiter et Saturne, il a une période de l'ordre de 900 ans. Sur 450 ans, ça se rapproche. Sur 450 ans, ça s'éloigne. Puis ça se rapproche encore 450 ans, puis ça s'éloigne et ainsi de suite. Mais en moyenne, ça reste à la même distance. Donc là, c'était absolument remarquable. On pouvait faire mieux par le calcul mathématique. On faisait mieux que ce que nous disaient toutes les observations consignées jusque-là. et donc stabilité sur l'ordre du million d'années. Ça, c'était remarquable. Et évidemment, les mathématiciens, comme les astrophysiciens, ils ne s'en tiennent pas là. Ils veulent toujours savoir ce qui se passe encore au-delà. Hein, remonter très loin en arrière dans le temps et aussi aller très loin en avant. Alors, un million d'années, on sait que c'est stable. Ouais, mais 10 millions, 100 millions, 1 milliard d'années. Est-ce que sur 1 milliard d'années, le système solaire est stable? Et on avait cette idée, pendant longtemps, après les travaux de Poincaré en particulier, que... il suffisait d'un tout petit changement dans ces systèmes perturbés, un tout petit changement, pour que le système puisse partir en vadrouille, faire n'importe quoi, explorer tous les possibles. Et puis, parce que, simplement, quelque chose qui n'est pas interdit, ça va être réalisé un jour. S'il y a une configuration des planètes qui n'est pas interdite par les lois, eh bien, un jour, cette configuration va se réaliser. C'était l'idée qu'on avait après Poincaré et puis sa théorie du chaos. Disons la théorie du chaos qui a été déduite des travaux de Poincaré. Et puis est arrivé Kolmogorov. Dans les années 50, Kolmogorov démontre un résultat invraisemblable, quelque chose auquel les gens ne s'attendaient pas du tout, aussi bien du côté mathématique que du côté physique. Il montre que si on prend un système comme ça, un système comme celui de Kepler, qu'on sait parfaitement intégrer, et qu'on le perturbe un petit peu, en tenant compte des interactions entre planètes que jusque-là on avait négligées, eh bien ce système, il est stable pour toujours avec une très forte probabilité. Ici, c'était remarquable, c'est la première fois qu'interagissait dans un tel contexte la notion de probabilité avec la notion de déterminisme à la Newton. Ce sont des équations déterministes, c'est pas comme en mécanique quantique où vous avez la probabilité qui peut venir sans crier gare. Ici, ce sont des équations déterministes, mais quand même Kolmogorov nous dit « Ok ». On ne va pas réussir à prédire si oui ou non c'est stable, avec certitude, mais on peut dire avec forte probabilité ça sera stable. Et il montre, si la perturbation est très petite, alors avec forte probabilité, par exemple quand on regarde par rapport à des variations dans l'espace des configurations, eh bien ça va rester stable. C'était le début de la théorie de Kolmogorov-Arnold Moser, stupéfiante parce qu'elle montre que des fois, il y a un certain ordre qui reste, alors qu'il n'y a aucune raison pour ça. Même si les lois n'imposent pas que le système soit ordonné, eh bien, spontanément, il va le faire. Alors, c'était un nouveau changement de paradigme qui a révolutionné un peu les esprits, aussi bien en mathématiques qu'en physique, ordre probable, même s'il n'est pas imposé par une loi. Et pourtant, et c'est assez paradoxal, même si ça a tout changé, il y a avant et après quand même dans la science, Kolmogorov, Arnold Moser, pourtant, il ne s'applique pas dans la vraie vie, ce théorème. Théorème de Kolmogorov, quand vous essayez de l'appliquer au système solaire, ça ne marche pas parce que Kolmogorov, il a besoin que la perturbation soit vraiment très, très, très petite. Je vous ai dit, c'est de l'ordre du millième, hein, la perturbation induite par Jupiter et les autres planètes par rapport au Soleil, mais ça reste quand même trop gros pour que la théorie s'applique. Et ça a été un nouveau changement de paradigme quand Lascar a montré que notre système solaire, celui qu'on connaît, le nôtre, il est instable sur de très très grandes échelles de temps. Pas si grande que ça, après tout. Et les dernières estimations, c'est de l'ordre de 60 millions d'années, la barrière au-delà de laquelle on ne peut pas prédire la position des planètes du système solaire. Lascar nous affirme qu'en plus, mais c'en est presque vexant, ce qui compte le plus dans cette instabilité, c'était une contribution de l'an dernier, ce qui est le plus gênant quand on veut calculer les positions des planètes du système solaire, ce sont deux astéroïdes dans le système solaire, Cérès et Vesta, dont la masse c'est peut-être de l'ordre du milliardième de la masse du Soleil ou quelque chose comme ça, enfin quelque chose de ridicule, totalement ridicule, qu'on aurait vraiment eu envie de négliger. Et ces deux astéroïdes, ils sont configurés de telle sorte que si vous bougez l'un de quelques centimètres dans la direction de l'autre, ça va influer la position de Mars par rapport au Soleil dans 60 millions d'années. Quelque chose de complètement dément. Notre système solaire, finalement, et c'est en ce sens que les espoirs sont déçus, malgré le merveilleux théorème de Kolmogorov, il semble assez instable. Pas beaucoup plus stable que la prédiction de stabilité qu'on avait avec Lagrange. Je dis que le théorème de Kolmogorov, il est merveilleux parce que vraiment, la preuve est extraordinaire. On l'a paraphrasé, réétudié ce théorème pendant les 50 ans qui ont suivi. Je l'enseigne à l'Université de Lyon cette année et il est magnifique, un joyau. Et je vous dis, il a changé les choses. Pour autant, il ne s'applique pas à notre système. Alors, un petit film fourni par Jacques Lascar résumera ce que je viens de dire. Et c'est un peu le point sur la stabilité du système solaire, même si le film date d'avant cette étude de Cérès et Vesta. Alors, du fait des perturbations planétaires, les orbites précesses et sont déformées. Voici l'orbite de Mars en rouge, la Terre en bleu, Vénus en vert. Regardez comme c'est beau. C'est presque planaire, mais pas tout à fait. Là, ce sont les orbites instantanées, orbites à la Kepler. Vous voyez le temps qui s'écoule en milliers d'années. Et puis, pendant les premières centaines de millions d'années, il ne se passe rien de particulier. Vous voyez comme c'est beau. Et puis, Lascar nous dit, après quelques milliards d'années, donc si on attend beaucoup plus longtemps, voilà le genre de choses qui peut se produire. Il y a une petite probabilité pour que la diffusion chaotique, et donc due à ces petits événements incontrôlables, déstabilise les orbites de Mercure, Mars, Vénus et la Terre. Les collisions deviennent possibles quand les orbites deviennent trop proches les unes des autres. Collision entre Mercure et Vénus, collision entre Mars et la Terre, et même collision entre Vénus et la Terre, les deux sœurs jumelles qui se rencontrent dans une apocalypse déchirante. Ça, c'est Mars contre la Terre. Une vue d'artiste. Vous voyez comme c'est beau. Ah, ça, c'est Vénus avec la Terre, encore plus spectaculaire. Alors, vous voyez, après cette émouvante séquence, ça, c'est un peu le point sur le système solaire, la stabilité du système solaire, que je vous présentais comme le plus ancien problème de physique mathématique, en un sens toujours non résolu. Bon, alors, Lascar, il nous dit qu'il y a un certain pourcentage de probabilité pour que ça fasse comme ça, mais c'est peut-être pas le dernier mot. Et vous voyez, comme on a évolué au cours des années sur ce problème, Newton y croyait que les équations n'assuraient pas la stabilité, puis Laplace et Lagrange, ils pensent que les équations assurent la stabilité, puis Poincaré, ils pensent que c'est instable, puis Kolmogorov, il nous dit non, en fait, c'est stable, et puis Lascar arrive, il nous dit, ben non, c'est instable, finalement. Retour à la case Newton après un long détour. Et ce qui est important, c'est que dans ce long détour, on a appris beaucoup de choses, beaucoup de progrès scientifiques, des nouveaux résultats, nouveaux théorèmes, nouvelles façons de voir les choses. Même si le théorème de Kolmogorov ne s'applique pas, cette question de stabilité, on peut la mettre en œuvre qualitativement, on la voit, on peut la vérifier d'ailleurs dans ses prédictions sur le comportement de certains astéroïdes de la ceinture. Alors, ceci, on va dire, c'était un long préambule par rapport au sujet principal. J'avais promis de vous parler d'étoiles. Alors, supposez que le système solaire, ça ne vous intéresse pas, c'est trop petit pour vous. Et vous vous intéressez à la galaxie entière. Alors, galaxie, la Voie lactée, c'est peut-être 300 milliards d'étoiles ou quelque chose comme ça. Ah, c'est encore bien pire que le système solaire. Système solaire, on avait 10 corps et puis on n'arrivait pas à intégrer les équations. Alors, avec la galaxie, c'est encore pire. Et puis là aussi, les questions d'échelle jouent un rôle fondamental. Alors, on va reprendre l'histoire où j'y étais, là. Vous voyez le Soleil par rapport aux planètes ? Et le Soleil, il est tout petit par rapport à Arcturus. La Terre, on la voit même plus à cette échelle. Et puis Arcturus, c'est encore tout petit par rapport à Antares. Là, c'est le Soleil, c'est le petit point là que vous pouvez peut-être distinguer. Même Jupiter, on ne voit plus à cette échelle. Alors c'est phénoménal, totalement phénoménal, la variété qu'on a dans l'univers, la variété de corps célestes, qui bien sûr, a priori, complique votre tâche. Bon, essayons de comprendre les choses de manière perturbative en disant, ben, par analogie, là, dans le système solaire, même si je ne savais pas faire, j'ai identifié un régime physique et mathématique qui dominait l'analyse et les progrès. On est parti du constat que le Soleil était beaucoup plus lourd que les autres planètes. Alors, pour la galaxie, au centre de la galaxie, il y a, comme on dit, un trou noir supermassif qui est, je ne sais pas, peut-être un million de fois plus... ou quelque chose comme ça, plus massif qu'un soleil. Donc il est énorme. Pour autant, ce n'est pas du tout comme le système solaire, parce que quand vous le ramenez à la taille de la galaxie, pour le coup, il est minuscule. C'est peut-être un 100 millième, j'ai dit les chiffres, peut-être il ne faut pas les prendre trop au sérieux, mais c'est quelque chose comme ça, peut-être un 100 millième de la masse totale de la galaxie. Autrement dit, il est négligeable à l'échelle de la galaxie. On n'est pas du tout dans un problème du même type que le système solaire. Alors on va chercher un autre régime intéressant, et cet autre régime intéressant, ça serait celui où on remplace nos 1 000 milliards d'équations par quelque chose de fluide, quelque chose où on a oublié la nature discrète de la matière. Et pour vous convaincre que, si étrange que ça puisse paraître, les étoiles, quand on les regarde de loin, on peut y penser comme un fluide. D'abord, admirez la photo, là. On n'a pas l'impression de voir des étoiles individuelles. On voit comme un nuage de gaz dont les particules seraient des étoiles. Et puis, on va regarder des petites simulations réalisées par l'astrophysicien John Dubinsky. Après les planètes en collision, voici les galaxies en collision. Alors, regardez comme c'est beau. On va dire que c'est très, très accéléré. Là, on voit aller sur des échelles de temps qui sont des millions et des millions d'années. Et là, ce qu'on voit, c'est comment ça évolue une galaxie, par exemple. Alors, il n'y a pas autant d'étoiles que dans une galaxie. Chaque petit point, pensez-y comme une étoile, mais quand même, il y en a beaucoup. Il n'y a rien d'autre, là, derrière, que les bonnes vieilles lois de Newton. Hein, ici, on est en train de regarder, juste ce qui résulte du fait que les galaxies s'attirent. On va virer ce machin qui nous embête. Juste les étoiles s'attirent, selon la loi de Newton, hein, de corps, une loi d'attraction qui est comme le produit des masses, inversement proportionnel au carré du rayon. Et regardez tous les schémas compliqués que ça fait. Alors admirez ces belles figures de collision entre galaxies, évidemment à comprendre comme étant très 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 accélérées. Regardez les belles images, c'est un autre style que les collisions entre planètes. Seulement la loi de Newton. Alors c'est très difficile de dire quelque chose d'intelligent face à ça. Si on veut l'étudier physiquement ou mathématiquement, par quel bout on va prendre le problème? Par quel bout on va prendre le problème? Peut-être qu'on peut écrire les équations, et une fois qu'on a écrit les équations, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et observez, donc, on n'a pas l'impression de voir des étoiles séparées, on a l'impression de voir des gaz avec des zones de haute densité, des zones de basse densité. Ou de la fumée. Depuis un long moment, on a coutume, en astrophysique classique, pour étudier ces problèmes, de faire appel à une description statistique. L'approche, dans le contexte de la théorie des gaz, remonte à Maxwell et Boltzmann. Et puis Vlasov, adaptation à la théorie des plasmas. Les années 1870 ici, puis Vlasov, les années 1930. Et l'approche consiste à oublier toute l'information particulière de position et vitesse de toutes ces étoiles. On a 100 milliards d'étoiles, ça nous fait beaucoup trop de position et de vitesse. On va retenir seulement une information statistique sur la densité des étoiles. Quel est le pourcentage d'étoiles qui sont dans telle région de l'espace? Quel pourcentage dans telle autre région de l'espace? Quel pourcentage d'étoiles qui vont très vite? Quel pourcentage d'étoiles qui vont lentement? Et ainsi de suite. On va tout ramener à des statistiques. De la même façon que dans une période d'élection, vous ramenez l'ensemble des intentions des votants à des statistiques. Ici, donc, densité d'étoiles en fonction de la position et de la vitesse. Et donc, vous avez une courbe, un graphique, ça serait comme un histogramme, qui vous renseigne sur l'importance relative de telle ou telle vitesse dans la répartition des étoiles. Et puis, vous regardez aussi la variation par rapport à la position. Traditionnellement, on va noter X, la position, 3 dimensions de position, V, la vitesse, 3 dimensions de vitesse. Et on va se retrouver, au lieu de nos 100 000 inconnus, on va se retrouver avec une seule inconnue, qui est une fonction qui dépend de la position et de la vitesse. Une seule fonction qui est la répartition statistique, la distribution des pourcentages. Comment cette fonction évolue-t-elle? Ça, c'est une approche générale, donc développée au XIXe siècle, qui s'applique à des gaz, à des plasmas, à n'importe quel fluide constitué d'un très grand nombre de petites entités. Une approche qu'on appelle cinétique parce qu'on tient compte de la distribution de vitesse en particulier. La plus célèbre des équations d'évolution pour un tel fluide, c'est l'équation de Boltzmann. En 1866, elle est écrite pour la première fois, d'ailleurs sous la plume de Maxwell. Équation qui est encore mystérieuse. Équation remarquable. Je vous l'écris, prenez-la de manière purement impressionniste. Vous avez ici l'évolution temporelle de la densité statistique. Comment vont évoluer les pourcentages? Est-ce qu'il y a une zone qui va augmenter en importance ou baisser en importance? Et puis un terme qui vous dit que les étoiles, ou les corps, ou les atomes, ou ce que vous voulez, si on leur fiche la paix, ils vont se déplacer en ligne droite, comme on sait depuis Galilée. Et puis, ici, un terme qui dit que de temps en temps, il y a des collisions, des interactions un peu violentes qui se produisent. Ça, c'est l'équation de Boltzmann qui s'applique à des gaz raréfiés. De temps en temps, il y a des collisions. Il faut l'imaginer comme un grand jeu de billard où les molécules se cognent dans un grand chaos. Et puis, c'est un exercice assez vertigineux. Vous vous représentez le gaz autour de vous. Hein, à chaque instant, même si l'atmosphère dans cette pièce est très tranquille, et à chaque instant, autour de vous, il y a des milliards de collisions de particules. Ça vous cogne dessus dans tous les sens, et puis les particules, elles ont des trajectoires invraisemblables, et puis autant c'est imprédictible à l'échelle microscopique, autant à l'échelle macroscopique, on arrive à prédire l'évolution statistique. Et ça, c'est l'équation de Boltzmann qui vous fait cette transition. Voici quelques-unes des équations les plus célèbres qui représentent ce problème universel de passage des lois microscopiques aux lois macroscopiques. Prenez-les toutes comme quelque chose d'artistique. Vous voyez comme elles sont jolies. Ça, c'est l'équation de Boltzmann sur laquelle mon directeur de thèse m'a lancé à un moment vers 1994 et avec laquelle j'ai passé une bonne dizaine d'années. Elle n'a pas l'air très engageante comme ça. Mais je vous garantis qu'une fois qu'on rentre dedans, c'est magnifique. Il m'est arrivé, ce qu'il arrive quand tout va bien, je suis tombé amoureux de l'équation, j'ai vécu une relation assez exclusive avec elle. On trouve beaucoup de choses dedans. Dans l'équation de Boltzmann, en particulier, j'en parlais, des problèmes d'information, et des problèmes de régularité, et des problèmes de mécanique des fluides. C'est tout un monde qui s'ouvre. Pour écrire sur chacune de ces équations, on pourrait écrire un bouquin de 1000 pages. Voici l'équation de Boltzmann, je vous ai dit, ça s'applique pour les gaz raréfiés. Par exemple, en pratique, si vous voulez construire un avion, optimiser une forme d'aile ou quelque chose comme ça, un avion qui va en haute atmosphère, c'est l'équation qui décrira bien le comportement du gaz autour de l'aile. Mais si vous vous intéressez aux étoiles, ça ne marche pas très bien. Ou ça marche, mais seulement avec des précautions. Ça ne marche pas très bien parce que les étoiles, elles ne passent pas leur temps à se cogner les unes contre les autres. Plutôt, ce qu'elles font, c'est qu'elles interagissent à longue distance. Et l'équation qui va bien avec ça, c'est l'équation de Vlasov, qu'on appelle parfois équation de Boltzmann sans collision, précisément parce qu'elle ne tient pas compte des collisions, mais seulement des interactions à longue portée. Cette équation de Vlasov, ici je l'ai écrite, alors il y a un terme qui dit que ça veut aller en ligne droite, et un terme qui dit que les particules interagissent les unes sur les autres. Et vous pouvez l'écrire pour n'importe quelle forme de potentiel interaction V. D'ailleurs, c'est la même équation qu'utilisent les astrophysiciens pour les étoiles et qu'utilisent les spécialistes de physique des plasmas pour les plasmas. Dans un cas, le constituant de base, c'est un électron. Dans l'autre cas, le constituant de base, c'est une étoile. L'électron et une étoile, c'est monstrueusement différent en termes d'échelle. Mais c'est la même équation qui s'applique à une variante près, c'est que le signe va changer parce que les électrons se repoussent alors que les étoiles s'attirent. Mais à part ça, là, on retrouve le miracle de la mathématique qui vous permet de résumer dans une même équation les propriétés d'objets extrêmement différents. Alors, ça, c'est l'équation qui régit un plasma, par exemple, donc un gaz totalement ou partiellement ionisé dans lequel vous intéressez aux interactions entre électrons, ou une galaxie. Et cette équation, elle va être valable tant que vous n'avez pas de problème précisément de collision. Si vous vous intéressez au temps grand, ce qui se passe, c'est que sur un temps grand, fatalement, de temps en temps, vous allez avoir des électrons qui vont passer très près l'un de l'autre, ou des étoiles qui passeront très près l'un de l'autre, des phénomènes un peu du genre de ce qu'on a vu là dans les galaxies en collision, mais moins violents et plus fréquents. Et ces événements, même s'ils sont rares, petit à petit, ils vont provoquer quelque chose qui, dont l'effet s'apparentera à celui de collision. On corrige donc, pour étudier le comportement en temps grand d'un plasma ou d'une galaxie, on corrige ces équations avec un terme qu'on appelle collisionnel et qui décrit ces presque rencontres. Sans vouloir expliquer du tout ce que ça représente, notez qu'il y a une petite analogie au niveau de la forme entre ceci et ceci. Et de fait, l'opérateur ici, qu'on appelle opérateur de collision de Landau, qui a été écrit dans les années 30, il reprend certaines caractéristiques de l'opérateur de Boltzmann, et il est lié à lui. Donc ça, c'est une équation, modèle, ce serait le modèle standard classique en astrophysique, où on tient compte des interactions entre étoiles, et de temps en temps, c'est presque collisions qui induisent un peu d'irréversibilité, de la même façon que les collisions dans l'équation de Boltzmann, elles vous font, se font des chocs, quelque chose d'irréversible, quelque chose de chaotique. Alors, pour mémoire, je vous ai mis aussi les équations qui sont parmi les plus importantes dans notre monde actuel, les équations de Navier-Stokes compressibles, le genre d'équations qu'on résout tous les jours pour tenter de prédire la météo. Et je remarquerai aussi, petite aparté de mathématicien, que ces équations, même si elles s'appliquent bien et on les utilise tous les jours, ce sont des communautés de milliers de personnes qui les utilisent, elles ne sont pas pour autant démontrées. Pour aucune d'entre elles, on est certain mathématiquement de leur validité. Parce que, je vous ai dit, il y a les lois microscopiques, par exemple les électrons se repoussent, et puis il y a les lois macroscopiques, l'évolution de la statistique. Et on ne sait pas faire le passage rigoureusement de l'une à l'autre. Il y a un moment où on passe de l'une à l'autre, et paf, il y a un moment où on agite les mains, on dit « ouais, là, on fait comme ça, ouais, bon ». Alors on dit « ouais, mais là, tu n'as pas le droit parce qu'il y a une singularité ». Ouais, mais bon, bon. Bon, alors, effectivement, si on attendait que les mathématiciens démontrent tout, on ne serait pas rendu. Voilà, les équations, là, pour construire l'avion, vous serez mal barré. Mais ça n'empêche que c'est un problème intéressant. Ça, c'est un des problèmes qui m'intéresse le plus en ce moment. Et le jour où on le résoudra, peut-être qu'il y aura quelque chose de profond, précisément, qu'on comprendra aussi sur les lois physiques, dans ce passage du microscopique au macroscopique, et que pour l'instant, on loupe. Alors, fin de l'aparté, revenons à Boltzmann, notre ami Boltzmann. Un de ses hauts faits de gloire, et la raison pour laquelle, une des raisons majeures pour lesquelles on parle encore de lui avec des larmes dans la voix, c'est qu'il a découvert cette notion, l'entropie. Alors, l'entropie, ça existait avant Boltzmann, mais il lui a donné un tout autre éclairage. Boltzmann, il a repris ce concept qui était né en thermodynamique, et il lui a donné un sens qui est à la fois simple, profond et universel. Un sens mathématique qui a été repris par les physiciens et par les mathématiciens, et qui est très simple. Alors, la description statistique, comme tout à l'heure je l'évoquais, c'est moins précis que la description complète. De la même façon que c'est moins précis de savoir que sur une famille d'électeurs, il y aura 75% de votants pour un candidat A, 25% de votants pour le candidat B. C'est moins précis que de savoir pour qui iront chacun des votes individuellement. Quelle est la perte d'information que vous avez ? Quand vous passez comme ça de cette information très précise à cette information moins précise, ben, ça dépend de la statistique. Si vous êtes dans un régime dictatorial, il y a un candidat A, un candidat B, mais on vous braque une mitraillette sur la tête pour au moment de déposer votre bulletin dans l'urne, de sorte qu'il y a 100% des votants qui votent pour le candidat A, ben, dans un cas comme ça, la donnée de la statistique est équivalente à la donnée de l'ensemble des votes. 100%, ben vous savez que chaque électeur, en son âme et conscience, a voté pour le candidat A. Si, en revanche, il y a un peu de dissension et que vous avez 99,9% candidat A, 0,1% candidat B, mettons qu'il y ait 1000 votants, pour simplifier, ça veut dire qu'il y a une personne, quelque part, qui a osé voter pour le candidat B. Si vous avez 1000 votants, ça fait 1000 possibilités pour trouver la personne. On passe de 1 à 1000 possibilités. Si maintenant c'est 99,8% contre 0,2%, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont bravé la mitraillette. Et donc ça vous fait deux possibilités. Alors, petit exercice de combinatoire, choisir deux personnes parmi 1000, c'est 1000 fois 999 divisé par 2. Bon, c'est de l'ordre du million. C'est un nombre à 6 chiffres. C'est de l'ordre du million. Vous voyez, on est passé de 1 à 1000 à 1 million, simplement en faisant varier un peu les probabilités. Et si je continue comme ça, je verrai que ce qui me donne le plus de possibilités, c'est la distribution 50%-50%. c'est elle qui est associée à la plus grande incertitude. Et vous pouvez vous amuser à calculer, vous verrez que c'est un nombre absolument faramineux. Alors Boltzmann, il part de ça. Et il dit, étant donné une situation pour laquelle on ne connaît que la description statistique, on va regarder, on va faire la liste de toutes les configurations possibles. On va compter les cas possibles, ou si c'est un ensemble continu, on va prendre le volume de l'ensemble de toutes les possibilités. On va appeler ça W, c'est ce qui vous reste à connaître, et on va, alors comme W c'est un nombre gigantesque en général, on va prendre son logarithme. Alors, pour ceux pour qui c'est un souvenir lointain, les logarithmes, on va tricher un peu et dire que le logarithme, en gros, c'est le nombre de chiffres. Hein, un million, en gros, c'est 6, un milliard, c'est 9, et ainsi de suite. Et voici la formule de Boltzmann. S égale K log W. S égale K log W, ça, c'est une formule magique. Formule magique qui régit notre monde, peut-être de manière encore plus sensible, au sens où on en fait l'expérience sans arrêt, que E égale MC2 ou ce genre de choses. Formule qui s'applique chaque fois qu'il y a une information cachée. À notre échelle, par exemple, nous sommes des êtres macroscopiques, on n'a jamais accès à l'information microscopique du monde qui nous entoure. Il y a sans arrêt de l'incertitude. Sans arrêt, une entropie qui est associée derrière chacune de nos mesures, derrière chacun de nos actes. S égale K log W. Alors, c'est pas très parlant comme formule, pas très commode. Si vous êtes ingénieur, vous dites, ouais, c'est gentil, mais comment je calcule W? Et c'est là que Boltzmann nous aide encore énormément avec un petit exercice, et ce sera la partie la plus mathématiquement la plus avancée peut-être de l'exposé, en tout cas dans ce que je vous proposerai comme exercice. Mais c'est un petit exercice que vous pouvez faire si vous avez gardé quelques notions de combinatoire. Donnez-vous des fréquences rationnelles, des nombres rationnels, P sur Q, F1, F2, etc., FK. Pensez-y comme... comme ça serait dans un sondage, le pourcentage qui vote pour le candidat A, pourcentage pour B, etc. Si vous avez 25%, F1, ça sera 0,25, et ainsi de suite. Vous voulez donner, et puis vous vous demandez combien j'ai de façons de ranger N particules, avec N très très grand, dans K boîtes, en respectant ces fréquences. Pour que la proportion de particules dans la boîte numéro 1 soit égale à F1, la proportion de particules dans la boîte numéro 2 soit égale à F2, et ainsi de suite. Comme un petit exercice que je vous faisais tout à l'heure. Et la réponse, c'est que quand n est très grand, environ ce nombre de façons de ranger les particules dans les boîtes, ça sera environ l'exponentielle de moins n fois la somme des fi, logarithme de fi. C'est un nombre qui croît exponentiellement vite par rapport au nombre de particules, et avec une certaine expression des fréquences, une expression très simple, et que vous pouvez appliquer dans un calcul, petite calculatrice, si vous connaissez F1, etc., FK, le nombre de cases que vous regardez dans votre description, vous pouvez calculer la somme des FI log FI. Alors après, il y a une généralisation, là c'est une écriture plus savante, mais vous voyez que vous reconnaissez un peu de la même chose ici, sous forme d'une intégrale, on regarde, on somme sur toutes les vitesses et toutes les positions possibles, la quantité F log F, où F est la distribution de position et de vitesse du gaz. Et ça, c'est une formule qu'un ingénieur peut utiliser et qui vous permet d'avoir accès à cette quantité d'informations cachées. Vous pouvez estimer l'incertitude qui est contenue, si vous voulez, dans une distribution statistique. Vous voyez, c'est un concept mathématique. C'est un concept mathématique et Boltzmann comprend qu'avec ce concept, il arrive à retrouver les lois de la thermodynamique, les concepts utilisés en thermodynamique, et en particulier la fameuse seconde loi de la thermodynamique qui, d'une manière qui peut être interprétée comme assez sombre, vous prédit que les choses vont toujours en s'aggravant. Les choses vont toujours en s'aggravant, le désordre augmente. Alors avant de venir à cette seconde loi, je mentionnerai aussi que cette loi, cette contribution de Boltzmann, elle a été retrouvée par l'un des pères fondateurs du monde informatique dans lequel nous vivons, l'Américain Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, qu'on utilise tous les jours, absolument tous les jours, sans s'en rendre compte, à chaque fois qu'on échange des messages, des codes, par Internet, par téléphone portable ou autre. Donc le premier qui a pensé à mettre en équation le problème de transmettre de l'information, de coder des messages. Et Shannon nous parle de l'apparition de l'entropie dans son langage. Et quand vous étudiez la théorie de l'information, c'est la pierre angulaire, l'entropie de Shannon. Il y a deux héros dans la théorie de l'information, et l'entropie de Shannon et l'information de Fisher, pour caricaturer. Et l'entropie de Shannon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit Shannon? On va l'écouter. Je pensais appeler ce concept information. et puis le mot était trop utilisé, alors j'ai décidé de l'appeler incertitude. Ça paraît bizarre, ça. Information, incertitude, on a l'habitude d'y penser comme des concepts qui sont opposés l'un à l'autre. Mais en fait, Shannon, précisément, il a cette idée que l'information, c'est lié à l'incertitude, c'est lié aussi à ce qui est rare. Quand vous gagnez de l'information, c'est quand précisément vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Hein, si vous écoutez un discours, si vous savez à l'avance, comme c'est malheureusement le cas trop souvent, ce qui va être dit par votre spécialiste de discours, il n'y a aucune information que vous gagnez. Si en revanche vous ne savez pas à l'avance ce qui va se dire, et si l'emploi des mots qui sont inattendus, inhabitués dans ce contexte, là vous allez gagner de l'information. Donc l'information correspond, si vous voulez, l'information qu'on va gagner correspond à la quantité de suspense qui reste avant de déchiffrer le message. On retrouve cette même idée d'information cachée qu'il y avait dans Boltzmann. Et alors Shannon nous dit qu'il discute avec John von Neumann, un des autres pères de l'informatique moderne. Hein. Shannon, von Neumann, Alan Turing, en gros c'est la trilogie des bonnes fées qui se sont penchées sur le cerveau de l'informatique. Il avait une meilleure idée. Tu devrais l'appeler entropie pour deux raisons. D'abord parce que ton incertitude a déjà été utilisée en mécanique statistique sous ce nom, et donc ça a déjà un nom. On retrouve là la magie de la mathématique. Le même concept utilisé par Boltzmann pour décrire les gaz, il est retrouvé par Shannon pour décrire le langage, pour décrire les transferts d'informations. Et puis, ajoute malicieusement von Neumann, en deuxième lieu, ce qui est plus important, personne ne sait ce que c'est vraiment que l'entropie, donc dans un débat, tu auras toujours l'avantage. Il y a un débat en ce moment, je ne sais pas s'il y en a un qui pensera utiliser l'entropie. Alors, en faisant ça, von Neumann y plaçait une sorte de malédiction sur l'entropie, mais malgré la malédiction, on comprend ce que ça veut dire. Désordre et information, et je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, l'entropie, ça correspond à la quantité d'informations que vous n'avez pas et que vous pouvez regagner. Ça correspond aussi au désordre, parce que plus il y a de possibles, plus la situation est désordonnée, si vous voulez. Pour que vous reteniez bien désordre et information, je vous sers une petite anecdote que j'aime beaucoup, qui garantit que vous la retiendrez. Donc, désordre et information. Donc, il y a l'an dernier, à la suite d'un passage sur un plateau de télévision, le journaliste dans la salle de démaquillage me demande d'écrire sur un mur, j'avais le mur là en face, hein, où les autres avaient écrit des graffitis et tout, et puis il me demande d'écrire un graffiti avec ce qui me tient à cœur. Hein. Peut-être un nom, peut-être quelque chose, alors je choisis d'écrire une formule. Et bien sûr, j'écris la belle formule là, S égale K log W. Ah, et puis je rajoute désordre et information. J'étais tout fier. Et, bah oui. Et lui, il regarde et il dit, c'est super. C'est super. Désordre et information, ça pourrait être la devise de notre chaîne. Et puis il ajoute, et ça vaut mieux que ordre et désinformation. Voilà, alors avec ça, vous le retiendrez. Alors, Boltzmann, malgré ses contributions remarquables, il s'est suicidé en 1906, un peu désespéré, persuadé qu'on ne prenait pas tellement sa théorie au sérieux, mais elle a été reprise, très lue. On retrouve la théorie de Boltzmann en particulier derrière les observations et les découvertes qui ont mené le monde à admettre l'existence des atomes. Hein, Einstein a repris ses travaux, Jean Perrin les a utilisés pour convaincre tout le monde de l'existence des atomes, Smulchowski les a analysés aussi, Mark Katz, probabiliste emblématique du milieu du XXe siècle, a dit que les travaux de Boltzmann étaient parmi les plus importants de toutes les sciences exactes, et donc Shannon, Svedberg aussi est associé à cette découverte des atomes basée sur les théories de Boltzmann. Et puis, de nos jours, on les utilise. Les ingénieurs utilisent. Ici, vous avez des ouvrages sur la théorie de Boltzmann. Ici, vous avez des résultats de simulation faits avec l'équation de Boltzmann. Par exemple, certains d'entre vous, certainement, vos moteurs, le trajet des gaz dans les moteurs de votre voiture ont été calculés avec l'équation de Boltzmann. Alors, pour revenir à la théorie de Boltzmann, qu'est-ce qui nous prédit en particulier ? Eh bien, que sous l'effet de processus aléatoires, comme des chocs qu'on n'arrive pas bien à quantifier, qu'on n'arrive pas bien à prédire, l'entropie augmente toujours. le désordre augmente toujours, quelque chose d'inéluctable, qui peut sembler assez déprimant, mais c'est comme ça. Pour l'illustrer, on va faire cette petite expérience de pensée. On prend une boîte, on la coupe en deux, on met une cloison entre la moitié droite de la boîte et la moitié gauche, on met du gaz dans la moitié droite, on met du vide, enfin on met rien dans la moitié gauche, on fait le vide, et au début de l'expérience, on enlève la paroi. Et on sait bien ce qui va se passer. Les particules vont s'engouffrer dans le vide. On va sentir un appel d'air. Le gaz va passer, comme attiré par le vide. Mais dans la théorie de Boltzmann, si le gaz y va envahir le vide, ce n'est pas du tout parce qu'il y a une force d'aspiration du vide ou quelque chose comme ça. C'est parce que simplement, le gaz, il fait comme les petits enfants dans la cour de récréation, on les met bien sagement d'un côté, ils vont s'égayer partout dans toutes les directions, sans penser à mal, simplement parce qu'ils vont occuper le plus grand espace possible. Et parce qu'il y a tellement plus de choses à explorer quand on va regarder la cour entière que la demi-cour. Alors, c'est ça, dans la théorie de Boltzmann, qui fait que le gaz va envahir tout et va finalement atteindre un état d'équilibre homogène partout dans la boîte. Alors, vous allez me dire, si c'est simplement dû au hasard, au fait qu'on veut aller vers les états probables, ça semble contradictoire avec ce que vous nous avez dit à l'instant, que cette loi d'augmentation d'entropie, elle était inexorable. Si c'est quelque chose simplement dû au hasard, ce sera tantôt vrai, tantôt pas vrai. Ouais, mais derrière, il y a des nombres gigantesques qui font qu'en pratique, c'est toujours vrai. Faisons un petit calcul. Prenons 10 puissance 17 particules. Hein, 10 milliards de milliards. Ce qui est tout à fait réaliste. Et puis, demandons-nous combien on gagne de possibilités de remplir l'espace si on a accès à toute la boîte par rapport à si on a accès seulement à la moitié de la boîte. Calculons le nombre de possibilités de remplir la boîte entière par rapport au nombre de possibilités de remplir la demi-boîte. Alors pour chaque particule, on a deux fois plus de possibilités, évidemment. Ouais, mais les particules, il y en a 10 puissance 17. 10 puissance 17, c'est beaucoup. Mais l'augmentation qui est là, comme chaque particule, c'est un facteur 2, c'est 2 puissance 10 puissance 17. Et ça, c'est monstrueux. Ça, c'est un nombre qui simplement, ça n'existe pas tellement il est grand. Pour vous représenter un peu ce nombre, on va le comparer à des choses qui sont assez familières, entre guillemets. Hein, on va le comparer avec le rapport entre le volume de la galaxie et le volume du proton. Ce qu'on imagine de plus grand et ce qu'on imagine de plus petit. Eh bien, ce machin-là, ce rapport à droite, il est absolument ridicule par rapport à ce rapport à gauche. Pour avoir une meilleure idée, il faudrait non seulement choper un proton dans la galaxie, mais après, regonfler par la pensée le proton aux dimensions de la galaxie, puis reprendre un proton dedans. Puis recommencer le processus. On regonfle encore, on reprend un proton. Et puis encore. Et puis encore 200 000 milliards de fois. Et là, on aura une idée de combien ce nombre il est grand. Alors vous voyez, ça c'est phénoménal. Quand on a affaire à des nombres grands comme ça, et des probabilités qui sont dans des rapports comme ça, évidemment ça va se produire. Toujours. C'est forcé. Et c'est ce caractère inéluctable de la loi d'entropie de Boltzmann qui explique son succès. Et son succès prédictif. Sous l'effet de processus aléatoires, ça c'est la loi de Boltzmann, et que Boltzmann démontre par un théorème mathématique presque rigoureux. Si on regarde, si on est mathématicien professionnel, on va râler parce qu'il y a ça, mais c'était un vrai argument. Et c'était un argument en plus élégant, même d'un point de vue mathématique. Et c'était conceptuellement remarquable. Il remplaçait une loi, qui par définition est quelque chose qu'on ne conteste pas, en quelque chose d'argumenté, un théorème. Un théorème avec une raison pour ça. Et donc, l'entropie augmente toujours. Alors, ça faisait partie de mes travaux, des travaux qui ont été récompensés, où, avec mes collaborateurs, on a étudié la vitesse d'augmentation de cette entropie. OK, Boltzmann, il montre que l'entropie augmente, mais à quelle vitesse ? Et ce problème, à beau être vieux, à beau être classique, on a montré qu'il était beaucoup plus riche que ce qu'on croyait. En particulier, l'augmentation d'entropie ne se fait pas de manière comme ça, comment on va dire, uniforme, mais elle se fait un peu par paliers souvent, et qu'il y a une sorte de compétition entre les aspects mécaniques des fluides et les aspects théorie de l'information de l'équation de Boltzmann, qui est remarquable. En tout cas, sans parler de cette étude, la distribution statistique cherche à maximiser son entropie. Et on obtient, en temps grand, la bonne vieille distribution gaussienne des vitesses, qui ressurgit, et distribution qu'on connaît bien dans les sondages, qu'on connaît dans les variations de la taille des individus, dans n'importe, à peu près n'importe quel phénomène aléatoire, la loi suprême de la déraison, comme l'appelait Galton, et qu'on trouve aussi bien dans les sciences humaines que dans les sciences dures, et bien là, elle arrive aussi, la distribution gaussienne. Boltzmann, il vous dit, prenez un gaz avec des collisions, donc des phénomènes irréversibles qui se produisent, attendez suffisamment longtemps, et votre gaz va avoir tendance à se répartir de manière homogène dans la boîte, avec un profil distribution gaussien. Parce que c'est ça qui est l'entropie maximale, qui a le plus de désordre. Et précisément, cette loi gaussienne, si on veut, elle nous apporte très peu d'informations, précisément parce qu'elle est si commune. On la retrouve partout. Alors ça, c'est pas mal. Et on peut dire, ben voilà, peut-être on a la solution à notre problème de stabilité de la galaxie. Comme la galaxie, c'est beaucoup de milliards d'étoiles, on peut en faire une description atomique. Une étoile à l'échelle de la galaxie, c'est comme une petite particule à l'échelle d'une boîte. Alors, si on attend longtemps, les quasi-collisions, elles vont avoir un effet pour augmenter l'entropie. Et puis, petit à petit, la distribution statistique de la galaxie va tendre vers l'entropie maximale. Et vous allez avoir une galaxie à peu près homogène, avec une distribution de vitesse à peu près gaussienne. Dans votre galaxie à ellipse, disons, vous avez quelque chose qui est à peu près homogène, et puis une distribution de vitesse à peu près gaussienne. Pourquoi pas ? Et pendant un moment, on a pu penser que c'était ça la solution. Et puis, là aussi, les espoirs ont été déçus. Et dans les années 60, l'astrophysicien Lyndon Bell étudie le cas et il conclut, ouais, c'est vrai, ça a tendance à revenir au repos. Et quand on regarde la distribution des galaxies, c'est pas loin d'être au repos. Comme si il y avait eu effectivement des processus d'augmentation de l'entropie à l'œuvre. Sauf que, si vous regardez les échelles de temps, eh bien, ça ne marche pas. C'est vrai que l'entropie, elle augmente, comme dans l'équation de Boltzmann, parce qu'il y a ces quasi-collisions entre étoiles. Mais cette augmentation, elle est très, très lente, parce que ces quasi-collisions, elles sont très rares. Et si vous demandez à ces processus de quasi-collisions de jouer pour vous, pour relaxer les choses, eh bien, vous allez devoir attendre beaucoup plus que l'âge de l'univers avant que ça ait son effet. Donc, ce n'est pas la bonne explication. Lyndon Bell introduit, pour expliquer ce paradoxe, le concept de relaxation violente. Admirez l'oxymore. La relaxation violente, on se demande ce que ça veut dire. C'est l'idée que, dans ces équations, le gaz ou la galaxie, elle peut revenir au repos sans augmentation d'entropie, avec des phénomènes mis en œuvre qui ne soient pas les phénomènes de collision. Et après, une fois qu'on a dit ça, ben on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est, y compris l'auteur lui-même de la terminologie. Alors, pour faire passer la pilule, parce que quand même c'est un peu gros à avaler ça, ouais, relaxation violente, il argumente avec un phénomène qui était déjà connu des physiciens des plasmas, l'amortissement Landau. 1946, Landau stupéfait tout le monde en proposant que dans un plasma, il y a un phénomène de stabilisation près des équilibres homogènes, un phénomène de stabilisation tel qu'on l'attendrait souvent en présence de phénomènes irréversibles, comme des frottements. Un équilibre qui est stable, souvent, c'est parce qu'il y a des frottements qui vont atténuer spontanément un petit déplacement. Et il dit, OK, ben, dans un plasma, je sais bien qu'il n'y a pas de frottement, mais pourtant, je vais faire la démonstration mathématique et vous allez voir que l'équilibre est stable. Alors, un plasma, qu'est-ce que c'est ? Plasma, je vous l'ai dit, c'est n'importe quel état dans lequel on a séparé les électrons du reste et où, de manière générale, vous avez une sorte de soupe de particules chargées qui interagissent. Ici, une image tirée de Wikipédia qui vous décrit certains phénomènes naturels dans lesquels les plasmas jouent un rôle prépondérant. Et là où le physicien voit toutes ces belles choses, le mathématicien voit la belle équation de Vlasov qui régit tous ces phénomènes assez différents. Alors, l'équation de Vlasov, il y en a des variantes, il y en a des complications plus ou moins sérieuses, mais ça reste ça le cœur et ça reste la pierre angulaire de tout physicien des plasmas classiques qui se respecte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équation ? Alors, est-ce qu'en particulier, on trouve cet effet d'amortissement lambda ou est-ce qu'il est présent dans l'équation, même si on ne le voit pas, même si ce n'est pas une loi inscrite ? Est-ce qu'il y a cet effet un peu comme on se posait le problème tout à l'heure du stabilité du système solaire ? On avait l'équation et on se demandait, avec cette équation, est-ce que ou pas le système solaire est stable ? Et comme je vous le disais, plasma ou galaxie, même combat en un certain sens avec cette subtilité du changement de signe dans l'interaction. Même si des électrons et des étoiles nous semblent des objets aussi différents, ce sont les mêmes équations. Alors voilà ce que nous dit Landau. Ici, vous le voyez, Landau, ça c'est une image pas très souriante, mais là, elle a des raisons. C'est le moment où on l'a envoyé en prison, pour aucune bonne raison. Il vivait à une époque et dans un pays où ça arrivait, surtout si vous étiez bon scientifique. Alors, on part d'un équilibre stable, nous dit Landau, on part d'un équilibre stable, on le perturbe, alors, paf, ça va revenir spontanément vers l'équilibre, la force générée par la perturbation va spontanément s'atténuer. Même s'il n'y a pas d'augmentation d'entropie, et pour argumenter ça, Landau utilise cette équation qui est là, dans laquelle on n'a pas tenu compte des collisions ou des quasi-collisions. Équation parfaitement réversible, comme on dit, dans laquelle l'entropie reste constante, le désordre reste constant. Alors, ça paraissait gros à avaler, même si, là encore, Landau, il argumente. Il fait une démonstration, mathématiquement, quasiment rigoureuse, très élégante, et on savait un rayon sur les techniques mathématiques. Et après, sont venus un paquet d'interprétations et un paquet de gens qui ont cherché à comprendre quelle est la cause physique, quelle est la raison de cet amortissement, comment on peut le comprendre. Encore maintenant, régulièrement, paraît des articles qui interprètent l'amortissement Landau de telle ou telle manière. Et c'était le début, avec ces travaux de Landau, donc dans les années 40, d'une controverse. Je peux dire que c'est une controverse furieuse, mais quand même une controverse. Comment est-ce qu'on peut avoir, sans augmentation du désordre, avec une équation qui ne connaît pas la flèche du temps, comment est-ce qu'on peut avoir spontanément une relaxation alors qu'on n'a pas de loi inexorable comme dans le cas de Boltzmann? Et puis on se pose la question, bon, est-ce que c'est solidement établi? Alors quand on regarde l'article de Landau, on voit que là où c'est le plus attaquable, c'est que son calcul est seulement réalisé pour une équation simplifiée. Il a triché, mais bon, dans un cas difficile, tous les moyens sont permis. Il a remplacé cette équation-là par une équation dite linéarisée. Il s'est dit près de l'équilibre, technique classique par laquelle on remplace au voisinage d'un équilibre une équation non linéaire par une équation linéaire pour laquelle vous avez accès à un plus grand arsenal de techniques mathématiques. Mais quand on regarde le temps grand, précisément ce qui l'intéresse, il n'y a aucune raison pour que cette linéarisation reste valable. Il y a même des arguments pour laisser penser qu'en temps grand, l'équation linéaire et l'équation non linéaire, elles ont des comportements complètement différents. Et donc là, on a l'impression qu'il a triché. Et donc là, il y a une controverse, et vous pouvez regarder dans les articles, un coup on dit Landau a raison, un coup il n'a pas raison, aussi bien chez les mathématiques que chez les physiciens, on se pose la question. Et avec mon ancien élève Clément Mouhot, en 2009, on a résolu ce problème, au moins dans le monde mathématique, en montrant que l'amortissement Landau avait effectivement lieu. On prend l'équation, non linéaire cette fois, la vraie, on part d'un équilibre, on perturbe, et on montre que la force tend spontanément vers zéro. Même s'il n'y a pas de frottement, même s'il n'y a pas d'augmentation d'entropie. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? D'abord, ben, c'est pas mal. On a résolu une controverse. Mais surtout, ça vient aussi avec un nouveau point de vue. Et c'est ça, quelque chose qui est important pour les mathématiciens. Les mathématiciens qui font de la physique, leur but n'est pas de vérifier rigoureusement ce que les physiciens savent déjà faire. Si c'était ça le but, on pourrait arrêter tout de suite. Leur but, c'est de trouver de nouveaux éclairages, de nouveaux points de vue, et des fois donner des arguments auxquels on ne peut pas penser sans une réflexion mathématique poussée, qui font comprendre pourquoi telle ou telle chose est vraie. En particulier, pour l'amortissement Landau, la preuve, dans le monde mathématique, la preuve de notre résultat, établit un lien avec deux des plus célèbres paradoxes de mécanique théorique du XXe siècle. Et dans le monde mathématique, vous avez donc trois paradoxes qui se retrouvent liés. Le premier, c'est celui dont j'ai parlé au début de l'exposé, le théorème de Kolmogorov. Certains systèmes perturbés restent ordonnés sans contrainte apparente. Vous partez d'un système très régulier, vous le perturbez un peu, et au lieu de profiter de sa liberté, il reste assez ordonné. Et le deuxième, c'est cette expérience de Malmberg. Alors, pour faire le lien d'abord entre ce théorème de Kolmogorov et l'amortissement Landau, je dirais qu'il faut penser à l'équation de Landau, l'équation qu'il avait utilisée en trichant, entre guillemets, comme cette équation très régulière. De la même façon que Kepler voyait le système solaire de manière très régulière, Landau voyait l'équation de Bolzano de manière très régulière. Et puis après, quand on passe à l'équation non linéaire, c'est un peu comme une perturbation, un peu de la même façon que Newton, il a dit, il faut regarder l'interaction des masses entre elles, après Kepler. La physique est complètement différente. Mais la mathématique a une parenté importante. Et puis le troisième phénomène, qui est lié aux deux précédents, c'est cette expérience de Malmberg, l'écoplasma. Je vais vous la décrire, c'est une expérience magnifique, qui vous montrera que les plasmas sont des objets un peu bizarres, qui réagissent de manière assez paradoxale parfois. Et que cette histoire d'amortissement Landau, ce n'est pas le seul phénomène paradoxal qu'ils exhibent. Alors voici l'expérience. Vous préparez votre plasma dans votre laboratoire, au repos, comme vous voulez. Et puis, au début de la séance, paf, vous envoyez un champ électrique avec une certaine inhomogénéité en espace, un champ électrique qui provoque un agitement des électrons et tout ça, et puis une agitation. Et puis le champ électrique, vous observez qu'il décroît après ces oscillations qu'on appelle oscillations Langmuir, vous attendez qu'il soit revenu au repos, et paf, vous envoyez une deuxième impulsion électrique. Et vous attendez encore que ça revienne au repos. Et puis vous ne faites rien, et vous mesurez avec votre oscilloscope ou ce que vous voulez, vous mesurez le champ électrique, et vous constatez que spontanément, le plasma va répondre à vos simulations. En fait, il va répondre aux deux précédentes. On croyait qu'il avait oublié la première, on croyait qu'il avait oublié la seconde impulsion, mais il a gardé la mémoire des deux, et ça va se traduire dans cet écho. Il va y avoir une réponse spontanée du plasma, et puis ça va disparaître. C'est comme si vous poussiez un cri électrique au début, puis un second cri électrique à une note différente, et le plasma y renvoie une note, un écho, une note électrique, mais encore une troisième hauteur. Ça, elle vous montre, cette expérience, que les plasmas sont des bêtes qui réagissent avec retard, si l'on veut. Et ça joue un rôle fondamental dans notre preuve. Un système qui réagit avec retard, c'est un système qui est plus stable qu'un autre. Et là encore, ce phénomène de retard, il joue un rôle important dans la stabilité. Donc là, c'est quelque chose qu'on découvre par l'analyse mathématique et qui est très difficile à capturer au feeling, disons. Alors, c'est le moment de tirer les conclusions et de parler aussi de démarches mathématiques. Donc je vous parlais ici, je vous disais que donc, nous avons ces nouvelles idées, nouveaux points de vue, une longue preuve mathématique. Alors, les mathématiciens ou les analystes comme je suis, ils tirent leur fierté de leur force d'attaque sur un problème avec des outils bien calibrés, et parfois ça peut être très long, et puis les vrais problèmes issus de la physique, souvent, ils engendrent des traitements très compliqués. En l'occurrence, c'est une très longue preuve, peut-être la plus longue jamais écrite en théorie cinétique. Elle met un terme à 50 ans de controverse. Au-delà de sa portée, si vous regardez, vous demandez qu'est-ce qu'on a montré dans ce problème, puis quel est le rapport avec les galaxies, dans ce théorème, on a montré de manière théorique, inattaquable, sur l'équation mathématique, que c'est effectivement compatible sur le temps grand, relaxation pour l'équation non linéaire et préservation de l'ordre. On a l'habitude depuis Boltzmann, de penser que quand on va vers un équilibre, c'est par augmentation du désordre. Et puis Landau dit peut-être qu'il y a d'autres phénomènes en jeu. Et là, on montre effectivement, et sur ce modèle-là, on peut avoir un phénomène irréversible comme une stabilité comme les frottements vous l'apporterez, alors qu'il n'y a pas de frottement, alors que tout est réversible, alors que le désordre est préservé. La relaxation, en fait, dans cet exemple, elle est due à deux phénomènes importants, un troisième aussi. Le troisième, c'est dans le monde mathématique la notion de régularité. Et puis, dans le monde physique, les ingrédients importants, c'est la notion de confinement et la notion de mélange. Confinement, comme dans une galaxie, on va dire, où les étoiles, elles restent, elles font corps avec la galaxie. Et puis, mélange. Le fait que vos étoiles, elles vont toutes à des vitesses différentes, c'est ça qui impose le mélange, qui fait que pour l'observateur, on a l'impression de quelque chose qui est mélangé. Même s'il n'y a pas eu de choc, ou de phénomène s'apparentant à des chocs. L'image qu'on pourrait avoir, l'image que vous pouvez, de manière simple, vous observez une fourmilière. On va dire que c'est la fourmi, vous observez. Les fourmis, vous aimez ça. Et puis, souvent, quand vous regardez une fourmi, on a l'impression qu'elle suit sa route de manière déterminée. Elle a un plan bien en tête. Et puis, elle ne se laisse pas perturber par les autres fourmis qui croisent sa route. Mais ça n'empêche, quand vous regardez l'ensemble, pas les fourmis individuellement, mais tout l'ensemble, vous pouvez avoir l'impression de quelque chose qui grouille, quelque chose qui est au repos, quelque chose qui est stable, si vous voulez. Et puis, peut-être, s'il y avait un endroit où il y avait beaucoup de fourmis, par le simple jeu du fait que ça part dans toutes les directions, ça va s'homogénéiser. C'est ça, l'amortissement par mélange qui est à la base de l'amortissement landau. Alors, voilà, c'est bien joli de parler de fourmis, ça vous fait une image que vous pouvez retenir. Dans le monde mathématique, vous avez ce pavé de 180 pages, tout entier, consacré à cette démonstration du théorème. Alors, vous voyez, là, avec ce que je vous ai raconté, vous pouvez même comprendre, si on prenait le temps, hein, il s'agit d'aller au-delà de l'équation linéarisée, et c'est un problème qui a été de longue date dans la théorie de l'amortissement landau, etc. Donc ça, c'est... et puis, à la fin, vous voyez, on montre l'analogie avec la théorie Kolmogorov-Arnold Moser, on discute des implications physiques, etc. Là, vous voyez, je vous ai expliqué cet autre article sur la théorie des plasmas, qui nous a donné pas mal de fil à retordre, avec de belles estimations, bien grasses, comme on aime aussi. Hein, si le problème ne résiste pas, c'est pas drôle. Alors, voilà, on est arrivé à la conclusion. On va terminer sur une note réaliste. On pourrait dire humble, mais c'est juste réaliste. Cet amortissement landau, même si on est fier d'avoir mené à bout cette démonstration énorme, ça reste une petite gouttelette dans l'océan. Et on a cette vision un peu en mathématiques, surtout en physique mathématique, d'une science qui n'est pas quelque chose dans laquelle il y a quelques trous par-ci, par-là, mais qui est un bel édifice avec seulement quelques trous. On a plutôt la vision d'un océan d'inconnus dans lequel on a des petits îlots qui émergent de temps en temps. Et ici, on a contribué à un petit îlot quelque part. Alors, pour ce qui est du problème initial avec lequel je vous ai appâté, en tout cas, cette question de relaxation violente, qui, d'après Lyndon Bell, joue un rôle important et qu'on retrouve dans beaucoup de simulations numériques, auxquelles beaucoup de gens croient. Quelle est sa nature ? Ben, bien malin qui pourrait le dire. On n'a pas tellement d'indications. Alors, nous, on a résolu le cas dans lequel vous avez une petite perturbation. Maintenant, que dire quand on a des grosses perturbations, hein, comme du genre de celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les galaxies ? Là, on est complètement désemparés. Complètement désemparés et beaucoup de travail encore pour les générations à venir. Je vous remercie.
Merci. Un peu de relaxation maintenant. Voilà. Merci encore. Et maintenant, place à la salle, place aux questions.
Oui, bonjour. Je voudrais simplement vous poser la question concernant le problème à n-corps que vous avez abordé au départ. Donc, en partant par la suite sur la théorie de Kolmogorov, il y a une notion que je n'ai pas saisie, c'est la notion de stabilité, parce que vous ne l'avez pas définie. Sachant que, si vous voulez, moi, d'après ce que je sais, c'est que le problème a été abordé, effectivement, dans le traité de mécanique céleste de Poincaré, hein, et lui, il parlait d'une notion très restreinte de stabilité qu'il appelait stabilité au sens de Poisson. Et ça voulait dire simplement que les trajectoires restaient confinées dans une certaine région de l'espace. Voilà. Alors, effectivement, cette notion, c'est exactement celle qu'on retrouve dans le théorème de Kolmogorov, puisqu'en réalité, il garantit que si on part d'un système hamiltonien intégrable, donc qui admet un tort invariant, alors par une petite perturbation, génériquement, pour la petite perturbation, donc dans un petit voisinage de cet hamiltonien, eh bien, tous les hamiltoniens possèdent aussi des torts invariants. Et en plus, ils sont conjugués, c'est-à-dire les mouvements sont ils sont conjugués différentiablement, analytiquement même, et ils ont le même vecteur de quasi-fréquence. Voilà. Donc c'est ça la notion de stabilité dont vous parliez. Alors dans ce cadre-là, d'ailleurs, j'aurais voulu savoir pourquoi le système solaire n'est pas stable. Parce que cette question-là, ben, je ne connais pas les travaux de Lascar, mais il me semble que cette notion-là, pour être tranchée, ça nécessite de calculer le vecteur de quasi-fréquence pour l'hamiltonien intégral.
Je vais en parler. D'accord. Alors, je dois dire que là, je vois un auditoire de qualité. De toutes mes conférences, c'est peut-être la question de plus haut niveau qu'on m'ait jamais posée. Et je vais répondre rapidement. Alors, effectivement, la stabilité, au sens où l'entend Poincaré, c'est le fait simplement que les orbites restent confinées au voisinage des trajectoires dans lesquelles elles sont, ou, dans le sens qu'on aura avec Kolmogorov et ses successeurs, c'est plutôt l'invariance des demi-grands axes. Le théorème de Kolmogorov, tel que vous l'avez cité, il s'applique bien, pour être technique, au cas d'un Hamiltonien non dégénéré. Alors, terme technique, j'ouvre la parenthèse, c'est quand le vecteur de quasi-fréquence dépend d'une manière, il dépend vraiment de sa différentielle est inversible. Et ce n'est pas le cas du système solaire. Et ça veut dire que dans le système solaire, fin de la parenthèse, la notion de stabilité est dans un sens plus faible. Ça va juste être l'invariance des demi-grands axes. Le fait que les distances entre le Soleil et les planètes resteraient à peu près constantes, et ce, pour tous les temps. Et donc, avec Kolmogorov, on voit que si on prend un système solaire idéal, dans lequel on a un Soleil massif et des planètes très peu massives, eh bien, on a effectivement ce théorème de stabilité en probabilité, avec probabilité 90% peut-être, eh bien, ça va rester tel qu'on le connaît, les demi-grands axes, les distances entre les planètes et le Soleil varieront très peu. Et ce théorème, qui, entre parenthèses, la démonstration complète a été rédigée seulement dans les années 2000, pour le cas du système solaire, ce théorème, il s'appliquerait au système solaire, il s'appliquerait si les planètes étaient effectivement très, très petites par rapport au Soleil. Mais elles ne le sont pas. Et puis, le système solaire, il a aussi, il est, on va dire qu'il est assez proche d'être en résonance pour certains des corps. Alors ça, il y a des questions techniques aussi. Le théorème, il s'appliquera s'il n'y a pas de relation particulière entre ces demi-grands axes. Mais par exemple, quand on regarde Jupiter et Saturne, si je ne dis pas de bêtises, leur période, c'est presque dans un rapport 5,5 ou quelque chose comme ça. Donc on a presque une résonance. Ça, déjà, ça complique les choses. Et puis, de manière générale, là, dans certains de ces décors, dans le système solaire, on n'est pas loin de la résonance. Alors, on n'est jamais exactement à la résonance. C'est un événement de probabilité nulle. Mais on n'est pas loin. Ça renforce encore le fait qu'il faudrait que les masses soient très petites. Donc, pour résumer, c'est pour ça. Le terme de Kolmogorov ne s'applique pas à notre système solaire parce que les masses ne sont pas très petites. Je l'ai dit tout à l'heure que la démonstration complète pour le système solaire a été seulement dans les années 2000. C'était rédigé par Jacques Féjoz, suite aux travaux de Michel Herrmann, une histoire qui est restée assez française.
Oh bon, merci beaucoup là pour votre exposé, c'est formidable. Moi, c'est à propos du chaos. Vous avez d'ailleurs employé plusieurs fois le mot, mais le chaos, c'est une sensibilité aux conditions initiales, puis après ça détermine des attracteurs étranges, enfin bon, c'est formidable. Mais enfin, le chaos, on s'avance vers le chaos, il y a une période chaotique, et puis après ça, il y a une période de stabilité, après ça, il y a de nouveau une période chaotique, je crois que c'est trois fois, hein, bon, encore une période de stabilité, puis après ça, c'est le chaos. L'exemple mieux, c'est la croissance démographique avec un plafond d'alimentation possible mondiale, eh bien, on s'aperçoit que si jamais on a un certain taux de croissance démographique qui sont très précis du point de vue mathématique, eh bien, on a ces périodes de chaos avec tout le monde qui meurt, mais pas tout le monde. Alors, ça reprend une certaine stabilité. Est-ce que cette théorie du chaos, elle s'applique dans les questions de relaxation des galaxies? Peut-être même de l'univers tout entier.
Alors, dans mon exposé, le chaos intervient avec deux sens qui sont liés, mais assez différents. Il y a d'abord le sens dans lequel on l'entend depuis Poincaré, qui est le chaos déterministe, qui est la sensibilité aux conditions initiales. On bouge un peu les positions, les conditions initiales du système, et paf! Même si les équations déterminent de manière unique, en fonction des conditions initiales, ce qui va se passer, la sensibilité est telle que ça peut être une conclusion complètement différente. C'est ce que me dit Lascar. On bouge un tout petit peu Cérès dans la direction de Vesta, et paf, ça change complètement la position des planètes au bout de 60 millions d'années, par le jeu d'une équation déterministe, mais très sensible aux conditions initiales, ce qu'on appelle communément l'effet papillon. Alors, c'est discuté précisément de savoir s'il y a vraiment un effet papillon en météorologie. Mais dans le système solaire, oui, Là, on il y est. Il y a cette forte sensibilité aux conditions initiales. Dans l'échelle galactique aussi, très certainement, tant qu'on n'est pas dans un régime statistique. Alors, l'autre notion de chaos, précisément, que j'utilisais, c'est celle au sens de Boltzmann, que j'utilise dans mon exposé. Le chaos au sens de, quand on a un choc, on ne sait pas trop le prédire. Les deux particules qui se rencontrent, elles ne se connaissaient pas avant. En termes techniques, on dit qu'il n'y a pas de corrélation entre leurs états. Ça, c'est au sens de Boltzmann. Et c'est ce que Boltzmann utilise pour établir son équation. Avec l'idée générale que, quand on est en présence de phénomènes microscopiques, pour en déduire une équation macroscopique, il faut, quelque part, de l'indépendance. Indépendance entre beaucoup d'acteurs, c'est ça qui nous donne la loi des grands nombres dont on se sert tous les jours. Indépendance au niveau des interactions, le fait que ce ne soient pas toujours les mêmes qui entrent en contact les uns avec les autres. Ça, c'est une notion de chaos au sens de Boltzmann. Alors, ça peut être lié au fait qu'un système soit chaotique au niveau microscopique, mais c'est un peu différent. Et dans le cas de Boltzmann, ça vient avec une prédictibilité qui est donnée par le nombre de particules, le grand nombre. Dans une approche statistique, il joue pour nous. Si on s'intéresse à connaître les positions exactes des particules, là, ça joue contre nous. Plus on a de particules, et moins c'est facile. Mais si on ne s'intéresse pas aux trajectoires, mais seulement à la distribution d'ensemble, là, ça joue pour nous d'avoir beaucoup de particules.
Autrement dit, si vous avez un système de 15 particules, c'est beaucoup plus compliqué qu'un système de 4 milliards de particules.
Voilà, si on s'intéresse à une question statistique, 15 particules, c'est beaucoup plus compliqué que 15 milliards. Et d'ailleurs, au niveau, c'est une des raisons qui font que c'est si dur de modéliser de la biologie ou de faire des ou d'appliquer à des aux sciences humaines, indépendamment de tous les facteurs, on joue toujours sur de bien plus petits nombres qu'en physique quand on s'intéresse à des gaz ou des assemblées de particules.
Alors moi, j'aurais une question à vous poser à propos des mathématiques.
Ouais.
Vous avez, j'ai lu quelque part, vous dites, vous posez la question de du boniment et de la trahison en ce qui concerne les mathématiques. Autrement dit, les mathématiques sont-elles une illusion ? Racontent-elles des boniments ? Dans quelle mesure ? Moi, je traduis ça de cette manière-là. Lorsqu'on a écrit une belle équation, est-on toujours déçu lorsqu'on essaie de l'appliquer à la réalité ? Ou est-on illusionné par le pouvoir prédictif ou soi-disant prédictif des mathématiques ?
Oui, effectivement, j'ai raconté ça dans un texte pour un festival italien qui s'appelle La Milanesiana, sur le thème du mensonge, et je parlais des trois mensonges du mathématicien ou de la mathématique. Alors, celui-ci est un des trois, effectivement. On peut discuter. Est-ce que le beau reflet mathématique, est-ce que la belle équation, elle va bien décrire les choses ? Alors, comme pour toutes les questions un peu subtiles, la réponse, c'est oui et non. Et ici, on le voit, alors cette équation-là, c'est bien trop beau. Par exemple, l'équation de Vlasov, c'est très beau. On fait plein d'études là-dessus. Et puis un jour, quand on teste les théories contre les galaxies, on voit que ça ne marche pas si bien que ça. Parce que c'est quand même pas fluide. Les étoiles, c'est quand même discret. Et l'approximation, elle n'est pas si bonne que ça. Jusqu'à un certain degré, ça marche bien, l'approximation par Vlasov. Mais si on va au-delà, ça devient un peu décevant. Ou ici, les équations de Navier-Stokes, elles sont magnifiques. Ouais, je vous garantis. Mais est-ce qu'elles reflètent de manière si exacte la réalité ? On peut se poser la question. Et ça arrive dans l'histoire. On a des gens qui se font effectivement attraper par la beauté de l'équation ou la beauté du théorème et qui croient qu'ils ont tout résolu. C'est arrivé à Poincaré. Poincaré, il avait son théorème de récurrence. Qui était un théorème magnifique, système mécanique, confiné, forcément vous allez revenir près du point de départ, avec très forte probabilité. C'est magnifique, c'est élégant, c'est simple et tout. Et à cause de ça, par exemple, il doutait de la validité de la théorie de Boltzmann. Parce que ce qu'il n'avait pas en tête, c'est la question des ordres de grandeur. L'ordre de grandeur sur lequel sa théorie s'applique, l'ordre de grandeur de temps, est très très largement supérieur à l'âge de l'univers. Et donc ça n'a pas de sens. C'est une échelle de temps sur laquelle même les équations de la physique, telles qu'on la connaît, n'ont sans doute pas de sens. Et donc ça, il n'avait pas conscience de ça. Donc il s'est fait tromper par la beauté de sa théorie. Kolmogorov aussi, dont j'ai parlé en un sens, il s'est fait avoir par la beauté de son théorème. Il est magnifique. Alors tout le monde, après, le théorème était tellement beau, on s'est dit, bah, c'est bon, le système solaire est stable. Hein, bon, ça participait jusqu'à ce que l'ASCAR arrive avec ses fichues équations qui mettent en place l'ordinateur, alors avec d'autres moyens. En un sens, on pouvait dire que ce n'était pas le même niveau d'élégance. En tout cas, il écrivait ses équations avec 150 000 termes, littéralement 150 000. Il aurait fallu un annuaire entier pour écrire l'équation qu'il a fait manger à l'ordinateur et puis qu'il a résolu de manière approchée. C'est pas le genre de style que visait Kolmogorov. Mais ça marche mieux, apparemment. Et d'autres exemples aussi. Alors, l'exemple célèbre que j'évoque souvent dans mes conférences, c'est Lord Kelvin et l'âge de la Terre. Ça, c'est un cas d'école. Magnifique. Fourier nous lègue sa théorie du refroidissement des corps solides. Il utilise sa théorie. C'est Fourier qui a établi la formule, la théorie qui permet de calculer l'âge d'un corps à partir du gradient de température mesuré à la surface. Et l'équation, elle est magnifique. Même un pic qui traîne quelque part, qui ajoute à l'impression de précision. Et Kelvin, il s'est fait avoir. Forcément, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'il a obtenu, sans se rendre compte que le modèle n'était pas bon, c'est comme ça qu'il a obtenu une estimation délirante. Genre, la Terre est âgée de 20 millions d'années, quelque chose comme ça. Donc là aussi, c'est un exemple où on se fait attraper par la beauté de l'équation. Pourtant, malgré tout ce que je viens de dire, souvent, ça marche très bien.
Oui, mais alors, c'est pour approfondir cette discussion, le statut des mathématiques, alors quel est-il ? Souvent, on pose la question, est-ce que l'on découvre les mathématiques ou les invente-t-on ?
Ouais,
le 2, le 3, le 4 existe-t-il ou est-ce que c'est... Voilà.
Ah oui, alors en plus, le 2, le 3, le 4, il y a beaucoup à dire. Alors, d'abord, la question est évoquée aussi sous un angle biologique par Stanislas Dehaene, c'est un ouvrage, certains d'entre vous ont dû lire dans l'audience, La bosse des maths, ça s'appelle, très intéressant, où il s'interroge justement sur le statut de 1, 2, 3, 4, et il démontre que dans notre cerveau, comme dans beaucoup d'autres êtres vivants d'ailleurs, 1, 2, 3, c'est inscrit en dur dans notre cerveau. Nouveau-né, il a déjà la notion de 1, 2, 3 qui est dans sa tête. Ça ne nécessite aucun apprentissage, c'est inné. Et puis, en revanche, pour les grands nombres, on a un système de représentation qui semble plus qualitatif. Et puis, bon, il investit comme ça sur notre capacité à calculer, qui est un tout petit aspect de l'aptitude mathématique. Peut-être même quelque chose de complètement différent, après tout. Mais enfin, tout ça pour dire que le statut de 1, 2, 3, effectivement, il est délicat. Et puis arrive ce débat qui a fait couler beaucoup d'encre depuis pas mal de temps, entre les platoniciens qui pensent qu'un mathématicien ne fait qu'explorer des paysages préexistants, une sorte de monde des idées qui se superposent ou qui sous-tend le monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est un peu ma conception. Je me reconnais très bien là-dedans. Et puis d'autres qui pensent que c'est une construction humaine, une élucubration, mais une élaboration de l'esprit humain, quelque chose qui est inventé. Et puis, selon les époques, selon les cultures, selon les pays, je dirais que c'est l'une ou l'autre des écoles qui domine, on pourrait dire même une ou l'autre religion, parce qu'après tout, il n'y a pas tellement d'arguments pour départager l'un ou l'autre. Alors, faire évoluer un peu le débat, car la question revient souvent, j'aime bien faire remarquer que ça a c'est pas seulement une question de couper les cheveux en quatre, ça influe sur la sociologie après et sur la façon de travailler du mathématicien. Le mathématicien qui croit qu'il explore un paysage, il cherchera la pépite, comme l'explorateur. Le mathématicien qui pense qu'il construit, ben il cherchera dès le début à bâtir. Pour caricaturer, il y en a un qui cherche les miracles et l'autre pas. Et moi, c'est très clair, quand je regarde ce que j'ai fait, en tout cas, je fais partie de ceux qui recherchent les miracles, qui recherchent le truc, paf, là, il y a le lien entre Kolmogorov et Landau. Et c'est pas la même façon qu'on cherche que si on croit qu'on construit.
Juste une petite question qui n'est pas très mathématique. Simplement, on sait que lorsque on crée de l'ordre quelque part, on évacue du désordre, donc sous forme d'entropie, sous forme de chaleur, ailleurs. Ce qui explique qu'il y ait des îlots d'ordre dans l'univers qui ne soient pas totalement désordonnés. Et je me posais la question de savoir, qu'en est-il de l'entropie des trous noirs ? Est-ce qu'on le considère comme faisant partie de l'univers, ou est-ce que c'est un ailleurs ?
Non, on l'est. Alors, il y a plusieurs. Pour le coup, je ne connais pas toutes les subtilités et il y a eu pas mal d'activités, c'est vrai, ces dernières années autour de l'entropie des trous noirs. Mais je dirais que ça dépend de votre modèle. D'habitude, on va les considérer comme faisant partie de l'univers. Il y a l'entropie du trou noir, l'entropie de ceci, etc. Mais parfois, on s'intéresse juste au trou noir en tant que système et à son entropie. Et l'entropie, il faut toujours garder en tête, ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèquement, ce n'est pas dans la matière qu'il y a l'entropie. Ça fait intervenir notre description. Le jeu de mots qui va bien pour retenir ça, c'est que l'entropie est un concept anthropique, au sens lié à l'homme, lié au regard qu'on a. Dans un système où vous avez accès à toute l'information, toute la matière, il n'y aurait pas d'entropie. L'entropie, elle vient de l'incertitude. Elle vient de la gamme d'expériences qu'on se donne, de la gamme de phénomènes qui nous permettent d'explorer un objet et de la, du décalage entre l'état de cet objet et ce qu'on peut en observer. Et donc après, c'est comme ça que, par exemple, j'ai pu dire tout à l'heure, ben, l'entropie de l'univers, en gros, elle est constante parce que je m'intéresse à la position des étoiles, par exemple. Mais je laisse tomber la position de l'état de l'air dans cette pièce, enfin, beaucoup plus de détails qu'on voit à petite échelle. Je m'en fiche. Dans mon système, là, c'est juste les étoiles et la description statistique. Si mon système, c'était juste les étoiles, mais que j'avais toutes les positions dans mes observations, il n'y aurait pas d'entropie. Donc, ça, pour revenir à la question, ça dépend du modèle, ça dépend de la façon dont on observe l'objet physique. Ce n'est pas intrinsèquement attaché à l'objet physique, l'entropie.
Merci.
S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous m'expliquiez la notion de stabilité dans le cadre statistique. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, est-ce que ce serait simplement l'existence de, asymptotiquement d'une distribution de probabilité stationnaire, comme la loi gaussienne ?
C'est exactement ça.
Il nous reste à vous remercier, Cédric.
Merci.
Merci encore.